hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
On est en trop étroite pour nos réalités.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission trans PD Gwyn.
Ah, surtout trans et Gwyn.
Bonjour, bienvenue dans l'émission.
Salut.
On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu. Alors aujourd'hui dans cette émission, on va vous parler du mouvement Riot Girl, qui est un mouvement féministe punk underground qui a commencé au début des années 90 dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis, dans la scène d'Olympia et un peu de Seattle. Et on va d'abord passer à la rubrique info.
Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Les infos. Alors pour commencer, on va parler du mariage homosexuel au Portugal. Donc les députés portugais ont adopté hier en deuxième lecture le projet de loi du gouvernement socialiste légalisant le mariage homosexuel sans droit à l'adoption. Donc il définit le mariage comme un contrat célébré entre deux personnes qui prétendent constituer une famille par une pleine communion de vie. Toutefois, au contraire de la plupart des pays ayant déjà autorisé le mariage homosexuel au Portugal, la loi exclut explicitement les homosexuels du droit à l'adoption. Donc, après son vote final par les députés, la loi devra ensuite être promulguée par le chef de l'État, Aníbal Cavaco Silva, qui a également la possibilité d'y mettre son veto, ce qui imposerait un nouveau vote du Parlement, mais ne ferait que retarder son entrée en vigueur. Donc il faut rappeler que ce président catholique pratiquant est membre du principal parti de droite parlementaire qui s'est prononcé, comme l'ensemble de la droite, contre le mariage homosexuel. La plateforme civile Citoyenneté et Mariage, qui avait soumis au Parlement une pétition de 90 000 signatures, exigeait un référendum sur le mariage homosexuel et a appelé à une grande manifestation nationale en faveur des valeurs de la famille et du vrai mariage. Donc ça, c'est une manif appelée le 20 février à Lisbonne. L'Église catholique a déjà fait connaître à travers le porte-parole de la conférence épiscopale, Manuel Moruhao, sa sympathie pour cette initiative. Donc au Portugal aussi, les FAF sortent dans la rue. C'est fou qu'ils se sentent menacés pour si peu. Une loi ne fait pas forcément changer les mentalités pour autant, en tout cas affaire à suivre.
Alors en Russie, une Pride à Saint-Pétersbourg. Malgré les échecs à Moscou et les nombreuses déclarations homophobes qu'on a pu vous lire dans les précédentes émissions du maire de Moscou et de ses adjoints, une première lesbienne et gay Pride devrait se dérouler à Saint-Pétersbourg le 26 juin prochain, a annoncé l'organisateur de Pride de Moscou, Nikolai Alexeev. En effet, le médiateur de Saint-Pétersbourg a déclaré qu'un défilé gay pouvait être organisé dans la métropole, la législation russe accordant la liberté de réunion et de manifestation, y compris pour les personnes LGBT. Puisque le droit existe, pourquoi ne pas l'utiliser, a-t-il déclaré. Ils ont indiqué avoir l'intention de faire usage de ce droit pour la communauté LGBT dans la capitale du nord de la Russie. La demande pour la tenue de la Gay Pride pétersbourgeoise sera faite 2 semaines avant la manifestation, conformément à la législation russe. On fait savoir les organisateurs, précisant que dans le cas où l'événement serait interdit par le gouverneur de la ville, ils revendiqueraient dans la rue leurs droits constitutionnels. Nous sommes très déterminés et toute contestation de l'autorisation de la ville sera portée devant les tribunaux russes et jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, ont-ils menacé. La Cour européenne des droits de l'homme devrait se prononcer plus tard cette année dans le dossier d'interdiction de la Pride de Moscou en 2006, 2007 et 2008. Sur la base de la jurisprudence de la Cour contre la Pologne concernant l'interdiction de la Gay Pride de Varsovie, les autorités russes n'ont que peu d'espoir de gagner contre les organisateurs des Gay Pride en Russie.
Et puis là, il y a un juge américain, Vaughn Walker, qui est chargé de superviser le procès sur la proposition 8 et il vient d'être outé par le journal San Francisco Chronicle. Le fait de mettre sur la place publique l'homosexualité de ce dernier attise la tension autour du procès en cours qui doit déterminer si la proposition 8, qui interdit le mariage homosexuel en Californie, est constitutionnelle ou non. Concernant le procès en question, le San Francisco Chronicle précise que la désignation de Vaughn Walker a été un pur hasard. Pourtant, si le juge décide que la proposition 8 est inconstitutionnelle, il y a fort à parier que les partisans de l'interdiction mettront en cause l'orientation sexuelle du juge et parleront de partialité. Pourtant, malgré son homosexualité supposée, le juge Vaughn n'est pas forcément bien vu par la communauté LGBT américaine. En 1982, c'est lui qui représentait le comité olympique américain contre les gay games, que les représentants de l'olympisme accusèrent d'utiliser leur nom sans en avoir le droit. Le procès avait alors été largement considéré comme homophobe.
Maintenant à Paris, le rassemblement prévu dimanche 14 février est déplacé de Notre-Dame à Saint-Michel. Les intimidations et les menaces des catholiques intégristes ont payé. La préfecture de police de Paris a vivement conseillé d'annuler le kissing contre l'homophobie prévu dimanche sur le parvis de Notre-Dame. Il aura donc lieu place Saint-Michel. En fait, des catholiques ont appelé sur plusieurs sites internet à défendre Notre-Dame contre, entre guillemets, les extrémistes homosexuels. Donc, dans un communiqué qui est profondément homophobe, cet appel dénonce les extrémistes de la cause homosexuelle accusés de harceler les catholiques dans un jargon homophobe bien connu, teinté, qui plus est de relents islamophobes. Alors, quelques citations, c'est « L'Église n'approuve pas les relations homosexuelles qu'elle juge désordonnées et contraires au plan de Dieu pour l'homme, mais respecte et accueille toutes les personnes, quel que soit leur comportement. Autant dire que ce kissing contre l'homophobie devant la cathédrale de Paris est particulièrement malvenu. » Donc ça, c'est le texte qui affirme ça en introduction, avant de dénoncer le harcèlement continuel des lobbies homo, accusés de singer le mariage, s'en prendre à nos enfants dans les écoles ou réduire notre liberté d'expression. Ils ont aussi peur des activistes d'ACT UP et ils disent « Ne laissons pas certains groupuscules prendre la mauvaise habitude de venir nous insulter devant nos églises ». Donc c'est aussi une déclaration dans l'appel qui fixe rendez-vous aux fidèles lors de la messe de 12h45 de façon spontanée ou avec une association pour répondre avec fermeté et courtoisie aux provocateurs. Donc voilà, tout est dit, l'appel est lancé encore une fois pour les petits faves de se joindre gaiement et le gouvernement de collaborer avec les FAF on attendait pas vraiment mieux de leur part de toute manière.
Décidément, on reste une menace.
Ouais, parce que il y avait aussi le fait où ils s'étonnaient que c'est pas lieu devant une mosquée ou une synagogue en étant très très fâchés. Donc certains proposaient, enfin étaient avec des arguments, c'est parce qu'ils ont peur de se faire tuer par des islamistes ou des juifs. Donc nous pouvons aussi les brûler et rétablir qu'est-ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les bûchers. Comme ça, ils auront peur de nous, ils arrêteront de nous provoquer. Donc, par exemple, sur les intransigeants, donc il y a un appel à la mobilisation contre les sodomites, je cite. Hein, les extrémistes roueuses ont prévu de se rassembler juste devant Notre-Dame pour s'embrasser sur la bouche durant 5 minutes. Une profanation haineuse et scandaleuse. Une attaque directe contre l'Église qui ne tolérera jamais l'impureté. Donc, ah ouais, puis il y avait ça aussi, les gens qui organisaient le kissing, parce qu'ils faisaient quand même des appels aux meurtres dans leurs commentaires en disant qu'il fallait brûler les PD. Et voilà, avec l'Inquisition, il y avait, c'est ça manque et c'était bien. Donc en fait, dans une interview, il y a un des types qui organisait le Kissing qui dit en fait la préfecture les a contactés en disant qu'il y avait des risques et des dérapages dangereux et que la police ne les soutiendra pas assez et elle pourrait pas assurer leur sécurité. Et donc voilà, l'événement il a été déplacé.
Ok, bah on continue un peu sur les FAF là, avec à Nantes, pour répondre aux attaques de FAF, un rassemblement contre l'ordre moral samedi 13 février. Donc en fait c'est un appel de Mixité de Nantes. Mixité c'est un mouvement féministe et mixte pour l'égalité des sexes et des sexualités, association de lutte contre le sexisme, l'homophobie et la transphobie. Donc on relaye cet appel. L'ordre moral s'affiche en insulte sur la façade du centre LGBT de Nantes. Le 27 janvier au matin, la façade du centre LGBT de Nantes a été recouverte d'autocollants portant des slogans tels que « euthanasie », « avortement », « mariage homo », « la France a le regret de vous annoncer la mort de la famille ». Signé d'un groupuscule catholique intégriste, mouvement de la jeunesse catholique de France. L'ordre moral contre-attaque. Cette mouvance anti-choix s'illustre depuis plusieurs mois maintenant à travers des présences répétées devant l'église Saint-Nicolas pour s'opposer au droit à l'IVG. Force est de constater qu'un pas nouveau a été franchi et que les homophobes et sexistes sont désormais à l'attaque. En effet, cette action sur la façade du centre LGBT n'est rien d'autre qu'une démonstration de force. Sale temps pour l'égalité. L'action de ce groupuscule serait sans incidence si le contexte ne leur donnait pas raison. En effet, la réforme Bachelot-Hôpital-Territoire menace l'existence de certains centres IVG, rognant ainsi sur le droit effectif à l'IVG sur l'ensemble du territoire. Quelles que soient nos positions de principe sur le mariage, le gouvernement maintient ce qui reste un privilège hétérosexuel, renforçant la hiérarchie entre les sexualités agréées par l'État et les sous-citoyennes. Par ailleurs, le conditionnement du changement d'état civil par l'opération condamne de nombreuses trans à la clandestinité. Enfin, et non des moindres, le débat nauséabond sur l'identité nationale a remis au goût du jour un cocktail réactionnaire mêlant nostalgie des villages aux clochers d'église et racisme décomplexé. Riposte contre l'ordre moral, laisser une telle provocation sans réponse politique forte, c'est donner un signe fort à ceux qui veulent s'attaquer à nos droits et notre visibilité que le champ est libre. Trans, Gwyn, PD, féministe, passons à l'offensive. Rassemblement samedi 13 février à 14h, place Royale, c'est à Nantes.
Ben voilà, on avait quelques autres infos, mais on aurait qu'à passer direct au thème du jour et au reportage.
Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Reportage.
Alors moi j'ai tout envie de savoir sur les Riot Girls, alors il faut que vous m'en parliez.
Oui.
Alors, on va commencer par un contexte historique du mouvement Riot Girl. Donc le mouvement Riot Girl, il est souvent associé, on va parler déjà du contexte politique, il est souvent associé à la troisième vague du féminisme aux États-Unis. Donc beaucoup d'auteurs féministes ont inspiré le mouvement Riot Girl, et notamment des écrits de black féministes comme Bellux, avec son texte Ain't I a Woman, le titre qui reprend les mots d'une esclave en 1851 à la Convention des femmes, qui montre ainsi qu'il existe des différences entre les femmes blanches et les femmes de couleur. Et le texte de Bellux, il introduit l'impact historique du sexisme et du racisme sur les femmes noires, et aussi l'évitement au sein du féminisme de traiter les problèmes de race et de classe, parce que à ce moment-là, le mouvement féministe était majoritairement blanc et bourgeois. Joie. Voilà. au niveau du contexte, on va dire musical, et notamment de la scène punk, au début des années 90, la scène punk américaine, dominée par la tendance hardcore, est devenue très violente, très masculine et très codée. À l'origine, pourtant, dans les années 70, l'émergence du punk avait plutôt favorisé l'accès des femmes aux sphères du rock, qui restait jusque-là à la chasse gardée des hommes. La scène de New York, par exemple, était en lien avec les milieux homo, ce qui avait malmené le mythe du rocker mâle, hétérosexuel et viril. Et le DIY et l'encouragement, DIY c'est do it yourself, ça veut dire fais-le toi-même, et l'encouragement de toutes les formes d'amateurisme avait permis aux femmes de se défaire du préjugé sexiste qui veut qu'elles n'aient pas d'aptitude naturelle à la technologie. Le retour de bâton des années 80, non seulement dans le monde du punk, mais dans la société américaine, incite quelques jeunes femmes à se mobiliser pour faire entendre leur voix. Et je vais citer Madigan, enfin plus ou moins raconter ce que Madigan Shive, une musicienne, elle raconte une des premières fois qu'elle s'est rendue à un concert de punk fin des années 80, début des années 90. En fait, elle se rend compte que toutes les femmes sont au fond de la salle et tiennent des vêtements. Et en fait, à un moment donné, elle demande pourquoi toutes ces femmes, elles sont là à tenir des vêtements et à être au fond de la salle. Et un mec lui répond à ce moment-là qu'en fait, elles sont leur porte-manteau. Et parce que pendant que les femmes, elles tiennent leurs vêtements et tout ça, eux, ils sont en train de pogoter au devant de la scène.
Donc ouais, et puis il faut pas oublier aussi qu'à cette époque, c'est Bush Senior qui est au pouvoir, qu'il y a la guerre du Golfe première qui est lancée, qu'il y a énormément de patriotisme dans la société américaine avec pas mal de propagande autour de ça, et que ça influe également patriotisme, virilisme, American Way of Life et tout, et que c'est pas non plus sans résonance sur les gens qui sont à l'intérieur des mouvements punk et qui sont construits en tant que gars où c'est bien d'être militaire. Donc voilà. Ensuite, le mouvement Riot Girl, ouais, c'est début des années 90 aux États-Unis, et c'est surtout situé autour d'Olympia. Donc c'est issu, donc là, ce qu'on disait, de la scène punk, et ouais, c'est aux réactions, au comportement viriliste, misogyne de cette scène. Donc ça aborde pas mal de thèmes comme le viol, les violences quotidiennes, la sexualité, le rapport au corps, le sexisme, et c'est surtout en fait autour de l'émancipation des femmes et la prise en charge des femmes par elles-mêmes dans leur vie. Donc voilà, et il y a aussi, on peut dire que dans le mouvement, il y a le jeu scénique qui a été qui a été assez important parce qu'il y a une théâtralisation autour des concerts, enfin, de la part des groupes. Donc voilà, il y a Kathleen Hanna qui a déclaré. Donc Kathleen Hanna de Bikini Kill, qui a déclaré. Que dans ses cours qui se tenaient dans son école, ils enseignaient aux filles comment se préparer à être violées, et en regardant par la fenêtre, elles voyaient les violeurs jouer au foot et se disaient « mais c'est eux qui devraient être ici pour apprendre à ne pas violer ».
Ok, maintenant on va poser un peu le contexte musical en plus de la scène punk, c'est-à-dire que au début du XXe siècle apparaissent les All Woman Bands, c'est des groupes musicaux constitués exclusivement de femmes qui chantent et jouent de la musique, qui explosent avec la venue du rock and roll. Donc durant les années 60, il n'est pas rare que des femmes jouent dans des groupes, mais elles sont rarement distribuées par des majors et leur existence reste confidentielle. Dans les années 70, de nombreuses féministes musiciennes fondent un mouvement de musique plutôt orienté vers le folk. Elles organisent des concerts, des festivals. C'est la naissance des festivals de musique de femmes, dont le festival de musique de Michigan, qui est assez décrié parce qu'il interdit l'entrée à toutes les trans. Donc du coup, c'est un festival de musique qui revendique l'entrée aux women born women, aux femmes nées femmes. Pendant la fin des années 70 et le début des années 80, il y a eu un certain nombre de meufs musiciennes de rock et punk qui ont influencé le mouvement Riot Girl, et donc ça inclut The Raincoats, X-Respect et The Slits, The Runaways, c'est le groupe dans lequel Joan Jett jouait. Et là on va vous passer un peu une chanson de X-Respect qui s'appelle Bandage Up Yours.
Some people think little girls should be seen and not heard, but I think, oh, bandage up yours! 1, 2, 3, 4!
Allez, on va dédicacer cette chanson à Robot Magique si elle nous écoute. Et on continue sur le contexte musical avec, je parlais de Joan Jett tout à l'heure qui jouait dans le groupe Runaway, puis qui a aussi joué dans d'autres groupes comme Black Heart. Et Joan Jett, on la connaît parce que c'est elle qui chante I Love Rock and Roll.
Et c'est qui a été reprise par Britney Spears.
Ouais. C'est une rockeuse qui a beaucoup inspiré le mouvement Riot Girl, et Bratmobile, qui est un des groupes de Riot Girl, a repris une des chansons de Joan Jett qui s'appelle Cherry Bomb. Et là, pour continuer sur Joan Jett, on va écouter un des morceaux qui s'appelle Bad Reputation, où elle dit en gros je m'en fous de ma mauvaise réputation, et aujourd'hui on est dans une nouvelle génération, les filles elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et c'est ce que je vais faire. Donc voilà pour situer un peu le contexte historique, et maintenant on va commencer à parler du mouvement Riot Girl en tant que tel. Donc au début des années 90, dans la scène de Seattle et Olympia dans l'état de Washington, donc beaucoup de femmes ont constaté qu'elles n'avaient aucune place dans leur scène punk locale, alors même qu'elles s'identifiaient avec cette subculture. Donc elles ont décidé de prendre la place, de représenter leurs propres intérêts en tant que femmes, en faisant leur propre fanzine, leur propre musique et leur propre art. En 1991, des jeunes féministes comme L7 s'élèvent pour protester à travers des actions et manifs et des concerts en réponse à la coalition chrétienne Right to Life qui attaque le droit à l'avortement. Au printemps 91, Alison Wolfe, Molly Neumann des Bratmobile, en collaboration avec Kathleen Anna et Toby Vail des Bikini Kill, créent un nouveau magazine appelé Riot Girl. Et même s'ils n'ont pas été les deux seuls groupes de départ, Bikini Kill et Bratmobile restent les groupes très liés au début du mouvement. Du 20 au 25 août 1991, K-Record organise un festival de musique indépendant appelé International Pop Underground Convention. Et à ce moment-là, une nuit non mixte meuf, appelée Love Rock Revolution Girls Till Now, a été un pas majeur pour le mouvement Riot Girl. De nombreux groupes y ont participé, comme Bratmobile, Evans to Betsy, Seven Year Bitch, et puis Kathleen Anna qui avait des projets solo à ce moment-là. Et donc cette nuit, ça a été la première nuit où il y a que des groupes de meufs qui ont joué pendant toute la nuit et ça a duré pendant super longtemps tout ça. Influencés par la culture DIY, la plupart des musiciennes n'avaient pas de formation de musique, mais jouaient avec passion et montraient fièrement qu'elles étaient amateurs. Des groupes comme Beat Happening arrivaient avec des slogans comme « Apprends comment ne pas savoir jouer de ton instrument ». Bientôt, il y a un public énorme qui vient voir les groupes de Riot Girl, et les groupes s'organisent pour être sûrs que leurs concerts se font dans des conditions où les femmes peuvent trouver de la solidarité et créer leur propre culture. Et par exemple, des groupes comme Bikini Kill invitaient souvent des membres du public à parler de leur expérience personnelle, et puis elles demandaient également aux mecs de bouger au fond de la salle de concert pour laisser la place aux meufs devant. Et ça, c'est ce qui a entraîné souvent des heurts et que certains mecs, à ce moment-là, ont accusé les Riot Girls d'être misandres.
Donc ouais, Bikini Kill, donc c'est un peu un des groupes les plus connus sur la scène Riot Girl, parce qu'il y a la chanson Rebel Girl qui est mondialement connue. Après, Kathleen Anna a eu d'autres projets, dont Le Tigre, qui sont, rappelons-le, où ils ont une pub d'SFR qui est avec une de leurs chansons. Donc voilà, c'est un peu la. Mais bref, à cette époque-là, il y avait un peu plus peut-être d'engagement anticapitaliste, on ne sait pas, mais peut-être. Et Bikini Kill a fait la chanson White Boy. En fait, c'est sur le viol et sur l'hétérosexualité. Et donc le refrain, c'est White Boy, don't lie, don't cry, just die. Donc garçon blond, ne rigole pas, ne pleure pas, juste meurs. Et c'est ce qu'on va écouter maintenant.
I think it's a problem because most of the girls ask for it.
Uh-huh. How do they ask for it?
The way they act, the way they... I can't say the way they dress because that's an own personal choice. But some dumb hoe that you butt rock your face is walking down the street. They're asking for it and they deny it, but it's true.
Ok, et maintenant on va parler aussi du groupe Bratmobile, qui est avec Bikini Kill un des deux groupes qui ont vraiment participé au début du mouvement Riot Girl. Et Bratmobile, il était constitué de Alison Wolff, Molly Neumann et Erin Smith. Et là on va écouter la chanson Gimme Brain, qui parle aussi à propos des mecs. Et c'est un peu... C'est un peu la même, c'est-à-dire que un peu elle les casse quoi. Et c'est pas mal.
OK.
I want you to go.
Vous êtes toujours sur l'émission On n'est pas des cadeaux, donc sur Radio Canu, et on est dans une émission spéciale sur le Riot Girl.
Voilà, et maintenant on va aborder un peu les modes de diffusion et distribution du mouvement Riot Girl. En fait, le mouvement Riot Girl, ça n'a pas été seulement un mouvement musical. De nombreux zines qui abordent des sujets féministes tels que le sexisme, le racisme, la maladie mentale, l'image du corps, les abus sexuels, le viol, le végétarisme, l'homosexualité font partie de l'héritage Riot Girl. Et puis la plupart des musiciennes du mouvement Riot Girl ont refusé les labels commerciaux pour signer chez des labels indépendants comme Kill Rockstar ou Car Record ou encore Mister Lady, qui était un label féministe lesbien indépendant qui a vu le jour en 1996 et qui est actuellement, je crois il existe plus trop, en tout cas il s'est terminé en 2004 il me semble.
Ouais, puis les labels là, enfin genre par exemple Kill Rockstar, il est aussi situé sur Olympia, donc ça reste à chaque fois dans la même zone géographique. Et en fait, il y a aussi d'autres liens avec les Riot Girls, où par exemple du fait de le grunge, c'est né à Seattle, enfin dans la région de Seattle et tout. Et en fait, du fait de la proximité géographique musicale, parce qu'il y a des groupes genre Hole ou L7 qui sont vus comme des groupes Riot Girls, mais qui vont être classés par certains dans le grunge, et que c'est aussi des trucs de un peu rock alternatif. Les Riot Girls ont eu certains échos dans le grunge. Donc par exemple, là, je vais vous lire des extraits du journal de Kurt Cobain, qui wow. N'était pas. Je l'ai reçu pour mes 16 ans. J'étais très fan. Et voilà, et ce qui n'était pas censé être publié. Alors on commence par la page 176. Salut. Ouais, tous les mots en isme se répondent, mais au sommet de la chaîne alimentaire trône toujours le macho blanc corporate, le mâle fort comme un bœuf. Irrécupérable, à mon avis. Je veux dire, les rapports de classe sont déterminés par le sexisme. Parce que c'est le mâle qui contrôle tous les autres ismes. C'est une affaire d'hommes. Et d'après moi, les gens ne peuvent réfuter aucun isme. Ou penser que certains sont plus ou moins importants. Sauf pour le sexisme. Il est en charge. Il décide. Je continue à penser que pour aborder tous les autres ismes, il faut d'abord mettre à nu le sexisme. Il est presque impossible de déprogrammer l'oppresseur mâle génétiquement constitué, en particulier quand il a été biberonné au sexisme de génération en génération, comme les monstres réac de la NRA et les bâtards de fils à papa corporate au pouvoir, ceux qui sont nés sans autre opinion que tout posséder et de... Alors, j'ai perdu. Et de laisser quelques miettes s'écraser à leurs pieds pour le reste d'entre nous. Mais il y a des milliers d'esprits innocents, de jeunes garçons crédules de 15 ans qui commencent à peine à se conformer à ce que l'on a inculqué sur ce qu'un homme est supposé être, sur les moyens et les moyens abondent. Donc, je continue un peu plus loin.
C'est Kurt Cobain qui t'a rendu féministe.
Non, même pas. Non, j'aimais bien la musique qu'il faisait. Alors, après, il suggère la vasectomie pour les homophobes. Et il termine cette lettre en disant « Tu me manques, Bikini Kill. Je t'aime totalement, Kurt.
» C'est beau.
C'est très, très, très beau. Donc, en fait, voilà, il y a le grunge, et c'est pas limité à une sous... le Riot Girl, il s'est pas limité au Riot Girl et tout. Il y a eu aussi des échos dans d'autres mouvements qui sont certes assez proches, mais où ça a eu quand même des effets pas négligeables pour que Kurt Cobain écrive dans son journal intime des choses qu'on peut qualifier un peu féministes. Je sais pas trop, mais qu'on peut qualifier d'une petite réflexion quand même. Et c'est quelque chose qui n'est pas rien. Donc voilà. Donc après, il y a aussi comment le mouvement Riot Girl a été perçu par les médias.
Attention.
Donc ouais. Alors déjà, pour rappeler qu'on est dans les années 90, que MTV, chaîne musicale de vidéoclips, qui est née au début des années 80, il me semble en 83, qui est spécialiste des vidéoclips, et que c'est eux qui sont à l'origine de l'industrie des clips. Donc voilà, ça, en fait, ça a eu pour effet de renforcer le rôle de l'image chez les musiciens. Donc voilà, et ça devient presque obligatoire de tourner un clip pour réussir. Donc en fait, Kurt Cobain, à un autre moment, il explique que c'est important pour renverser le système de rentrer dans le système, parce que comme ça, c'est la seule manière efficace de le renverser quand on en fait partie. Donc c'est pour ça qu'il explique qu'il il a été d'accord pour tourner le clip au début des années 90, Smell Like Teen Spirit, et voilà. Et en fait, ce clip-là, ça a fait que le groupe, il a explosé, ça devienne des superstars. Enfin, le clip, il est passé en boucle. Puis il y a toutes les statistiques grunge, nanana, qui est très, très importante. Et les médias, là, ils vont commencer à s'intéresser à cette nouvelle mode qui chez les ados, parce qu'on voit de plus en plus d'ados habillés en ce qu'on appelle un grunge. Et en fait, il faut aussi rappeler qu'il y a Courtney Love, qui est l'épouse de Kurt Cobain, et qui joue dans Hole, qui est un groupe Riot Girl. Donc voilà, donc très vite en fait les médias ils vont dépolitiser totalement les Riot Girls et ils vont s'intéresser, enfin d'après eux ça va juste être des meufs qui font du grunge et où leurs petits copains ils vont jouer dans d'autres groupes. Donc voilà, il y a plus de contenu politique, c'est juste c'est des meufs de toute façon, donc elles peuvent juste s'intéresser au style vestimentaire particulier qu'elles ont et ça s'arrête un peu là le truc Riot Girl. Donc le style et le look, il a été pas mal récupéré. Donc en fait, c'était pas rare à l'époque de voir, même si on regarde les vieilles séries télé américaines où il y avait des adolescentes au groupe de si on ferme les yeux, on imagine que comment ça, à quoi ça ressemble une Riot Girl, ben ça ressemble à ça. Donc voilà. Donc en fait, c'était vu ce mouvement-là plutôt sur l'apparence futile. Voilà. Enfin, c'était ça, apparence synonyme de futile. Et encore maintenant. Et par exemple, il y a une chanson de Good Charlotte, qui est un groupe américain du début des années 90, de, on va dire, les punk californiens. Donc voilà. Et leur chanson s'appelle donc Riot Girl. Et le premier couplet, c'est « Elle a des tatouages et des piercings. Elle aime Minor Threat. Elle aime Social Distortion. Ma copine, elle est chaude. Une délinquante qui aurait besoin d'une petite correction. Une anarchiste qui hait le monde entier. C'est urgent. Appelez le 911. Elle s'énerve après tout le monde. La police, les secours, le FBI. Elle cherche les meutes. Elle cherche les meutes. Je sais que mon bébé ferait tout pour moi. » Donc voilà. C'est un peu comme ça que voilà. C'était perçu.
Ok. Et moi, je vais rajouter un peu sur les médias. En fait, les médias se sont vraiment emparés du mouvement Riot Girl pour en faire un phénomène sensationnel, futile, et par là même montrer que le féminisme était un phénomène de mode et qu'en gros, c'était du passé, quoi.
Mais est-ce que c'était pas aussi un peu pour casser les féministes entre elles et pour semer de la division? Est-ce qu'il y avait un aspect comme ça ou pas?
Alors, de fait, je pense que ça a réussi parce que la plupart des Riot Girls de l'époque, elles s'attendaient pas du tout à cette couverture médiatique et surtout que je pense que le punk, la scène punk n'était pas couverte à ce point-là médiatiquement parce que ça restait quelque chose de très underground et du coup pas du tout, en tout cas qui utilisait pas du tout les mêmes médias que les médias dominants. Et du coup, la plupart des Riot Girls de l'époque, elles racontent à quel point les médias étaient agressifs pour obtenir des interviews, pour venir au concert, prendre des photos, alors même que la plupart d'entre elles ont toujours refusé de leur donner leur parole. Et en fait, elles ont été en quelque sorte piégées par la couverture médiatique qui s'est déclenchée autour d'elles, qui a dénaturé le mouvement, qui l'a dépolitisé.
Et il y a même qui l'a affaibli.
Bah ouais, parce que par exemple les témoignages de certaines Riot Girls, c'est qu'elles ont été dégoûtées et qu'elles ont pas parlé de Riot Girl pendant des années après ça. Et ça l'a affaibli dans le sens où certains groupes de Riot Girl étaient plus médiatisés que d'autres. Et ce qui a amené des trucs de guerre, en fait. Enfin, pas de guerre forcément, mais tu vois, un truc de ressentiment entre les différents groupes, ceux qui étaient un peu plus médiatisés, ceux qui l'étaient moins. Et que ce qui ressort, c'est que aucune d'elles, elles l'ont choisi, cette couverture médiatique.
Et il y a aussi le film Tanger, là, qui est sorti en 95, qui a eu aussi pas mal d'effets. Ce qu'on voit, c'est à la base, c'est une BD qui a beaucoup de connotations, on va dire, homo, Gwyn et tout, anar, féministe, punk. Et voilà, il y a L7 qui a fait une chanson de la BO de ce film. Donc c'est la chanson, c'est Chauve. Et en fait, ça parle du sexisme rencontré par des meufs dans leur vie et dans le milieu de la musique.
Et donc c'est la prochaine qu'on va écouter. Et cette chanson, elle dit un peu « Dégage de ma route ou de ma vie, ou c'est moi qui te dégage ». »
voilà, la chanson est finie, on reprend l'émission. Donc là, en fait, on va voir que le mouvement Riot Girl, il perdure encore un peu aujourd'hui. Par exemple, c'est un mouvement qui était aussi à l'origine des Lady Fest, où le premier, il a eu lieu, il me semble, en 2000 à Olympia.
C'est ça.
Et tout, et que en fait, il y en a toujours des Lady Fest qui sont organisées régulièrement.
C'est quoi exactement une Lady Fest ?
Alors, une Lady Fest, qu'est-ce que c'est donc ça ? C'est un festival pour Lady ? Non, c'est des rencontres, après ça dépend, qui peuvent être en mixité ou en non-mixité, et après en différents types de non-mixité, plus ou bien moins bien expliqués.
Mais c'est quoi ? C'est que de la musique ?
Non, c'est censé être des ateliers, des discussions. Ça dépend en fait où on va, parce que moi j'ai des souvenirs de Lady Fest où c'était effectivement que de la musique et il y avait dû avoir deux ateliers, mais à la base c'est censé être un peu politique, donc c'est censé avoir des échanges et discussions et des workshops. Mais après, ça dépend en fait de où on se retrouve, qui organise aussi, si c'est pour... Enfin, il peut aussi bien avoir des ateliers apprendre à faire une fessée que des ateliers autour du post-structuralisme dans les mouvements féministes actuels.
Mais en gros, c'est des ateliers pour que des femmes entre elles, elles apprennent à faire plein de trucs ensemble et qu'elles soient plus autonomes vis-à-vis des hommes.
C'est donner de la force. Enfin, c'est surtout ça. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est censé être un espace de rencontre pour se donner de la force avec des échanges de savoir en non-mixité.
Et puis maintenant, c'est aussi,
du bien.
C'est aussi femme
Gwyn trans. Ouais, c'est ça, où il y a eu... dans les trucs féministes, les Gwyn qui se sont fait un peu... Enfin, moi, comme je vois le truc, c'est qu'il y a les Gwyn qui se sont fait un moment où elles pouvaient dire qu'elles étaient Gwyn, et il y a une non-mixité femme Gwyn. Après, il y a une non-mixité femme Gwyn trans, où les trans, ils sont dans ma... Non, mais c'est plus ou moins bien expliqué pourquoi c'est cohérent d'avoir des alliances... Meuf Gwyn trans, pourquoi c'est cohérent les alliances Gwyn trans, pourquoi c'est cohérent d'avoir des alliances meuf trans ou meuf Gwyn. Enfin voilà, ça dépend vraiment, je pense, de qui organise et si c'est parce que c'est vu comme on a des choses à faire ensemble et sur des thématiques, on a des thématiques en commun ou est-ce que c'est parce que c'est cool de faire des trucs ensemble. Enfin, juste voilà, ça va de soi et tout. Ou est-ce que c'est remis en question, c'est non-mixité et questionner qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait, pourquoi on se rencadre.
Mais du coup, ça dépend vraiment de qui organise, quoi.
Ouais, c'est ça. Faut savoir que les Lady Fest, il y en a quand même partout dans le monde. Et à des moments différents et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui a explosé au niveau des organisations. Du coup, ça a commencé en 2000 et maintenant, il y en a vraiment partout. Et avec, effectivement, c'est chaque groupe qui l'organise qui, à un moment donné, met sa politique derrière, ce qu'elles ont envie d'en faire et tout ça.
Ça peut être plus ou moins autogestionnaire, plus ou moins anticapitaliste, plus ou moins...
Féministe
sur des trucs
radical,
trans... Ouais, c'est ça, féministe radical, plus ou moins trans... Gwyn. On va pas dire PD, parce que voilà, c'est pas... Je me sens pas qu'il y ait des manifestes trans PD Gwyn. Enfin, voilà, mais sinon, ça dépend, en fait, vraiment des gens. Comment ils voient le truc et comment ils voient leur vie.
Mais souvent, c'est quand même des rencontres enthousiasmantes et avec plein de force quand même de se retrouver.
Ouais, bah c'est le but, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est pas fait pour pleurer pendant une semaine en se disant la vie, elle est trop horrible.
Et tiens, d'ailleurs, un truc qui donne de la force, là, on n'a qu'à mettre une chanson des Sletokinets qui s'appelle Get Up. Et en fait, cette chanson, le clip de cette chanson, il est vraiment chouette et ça vaut le coup d'aller le voir. C'est un clip où on voit des féministes, au début, elles sont pas nombreuses, elles viennent récupérer leurs potes qui sont un peu perdus dans des champs et qui sont couchés par terre et tout ça. Et du coup, elles se donnent la main pour arriver à faire le champ complètement en récupérant les jantes les unes après les autres. Et à la fin, elles sont plein. Et elles continuent de traverser le champ comme ça en récupérant leurs potes au fur et à mesure. Voilà.
Quelle belle métaphore.
Et du coup, c'est galop.
Like a whole fucking star. Don't
Voilà, maintenant, on a parlé du mouvement Riot Girl. C'était un mouvement, vous avez vu, super cool, qui a donné plein de force à des gens et que c'était vraiment super. Mais nous avons peut-être quelques critiques à faire de la radio, car nous y avons activement participé.
Alors en fait, il y a quelques critiques du mouvement, et une des critiques, c'est que ce mouvement, il a apporté de la force essentiellement à des meufs blanches, malgré l'inspiration qu'ont pu avoir les écrits des Black féministes, et c'est notamment une chose qui ressort dans le documentaire Don't Need You, qui est un documentaire sur les Riot Girls, où les meufs qui ont eu cette possibilité-là d'émancipation, de force, d'aller à des concerts au Ladyfest, eh ben, elles étaient majoritairement blanches. Mmh. Et puis, c'était également un mouvement de meufs hétéras, et même si des Gwyn se sont impliquées dans le Riot Girl, elles étaient également dans le queercore, dont on parlera dans une prochaine émission radio. Et ça aussi, c'est à mettre en avant, c'est-à-dire que oui, la plupart des chansons, elles parlent du sexisme et tout ça, parce que c'est des personnes qui sont touchées en premier dans un truc où elles sont hétéras. Mais que du coup, d'une manière, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça représentait pas non plus toutes les meufs punk de la sphère, parce qu'il y avait aussi des Gwyn qui étaient là et.
Et ça revient très peu souvent dans les chansons sur des meufs qui disent I'm proud, I'm dyke. Enfin, il y en a pas des masses, il y en a, mais c'est pas la majorité. C'est surtout, enfin, il y en a beaucoup de chansons autour de l'avortement, des violences conjugales hétéro et tout, mais c'est un peu voilà. Donc ça fait qu'au final, il y a quand même des questions sur l'hétéropatriarcat qui sont pas posées. Enfin, qui sont pas posées dans les chansons, vu que ça, enfin, on retrouve des problèmes en fait dans la dans les on retrouve des problématiques qui sont encore actuelles. Moi, je trouve là-dessus, c'est que entre des féministes hétéras ou des féministes transpédéguines, où c'est pas finalement les mêmes problématiques et tout, et que ça va pas être la même critique et les mêmes choses qui vont être critiquées dans la vie quotidienne ou dans la, enfin ouais, c'est ça. Enfin, c'est. Ça perdure visiblement toujours.
C'est ça, c'est un peu la limite de comment on questionne l'hétérosexisme. Mmh. Et que de fait, eh ben, ces frictions-là, c'est clair qu'elles sont toujours d'actualité.
Mmh. Et donc ça veut dire que c'est ça qu'on fera un volet sur le queercore pour en parler et parler pareil de ses origines et tout ça et...
Ouais, on va faire un peu la même chose avec le queercore, sachant que c'est un mouvement qui est, un peu plus ancien,
des
années 80. Avec des fanzines et tout ça, et puis avec des groupes de Gwyn, de PD, et quelques trans par-ci par-là. Pas nombreux non plus.
Oui, mais bon, là, on en est encore sur le Riot Girl.
Voilà. Non, mais j'ai introduit. Et ben, du coup, comme c'est un peu la fin de l'émission.
Il faut en passer deux encore.
Il faut en passer deux. Et ben, très vite, en tout cas, il va y avoir la chanson de Even to Betsy qui s'appelle Terroriste, et cette chanson, elle dit au début tu me suis dans cette putain de rue et tu me fais me sentir comme une comme un bout de viande, et tu penses que je ne sais pas ce que la guerre ça veut dire, et maintenant je suis une terroriste et je vois comment ça fait, et je vais te buter, quoi. Je vais te couper.
Et voilà, l'émission touche à sa fin. Vous savez tout, ou presque tout, sur le Wired Girl. Et on va finir sur une dernière chanson. Voilà. La dernière chanson aussi du film Don't Need You, qu'il faut que vous voyez, parce qu'on apprend énormément de choses.
Et c'est une des chansons aussi, comme le disait Morgane tout à l'heure, qui est hyper connue. Alors, on n'aura qu'à se dire au revoir dans deux semaines. Et puis,
la semaine prochaine, vous retrouvez Lilith Martin et les autres.
Et puis, on écoute Rebel Girl.
Ciao.
Salut.